même partie, contre Brecht. En 43-44, il écrit Mère Courage pour montrer ce que c'est qu'un aveuglement, quelqu'un qui est pris dans l'idéologie. Et les gens, sont tous pris de pitié pour cette pauvre femme qui, en fait, est quelqu'un qui est complètement traversé par, enfin, organisé par l'idéologie du moment. Donc, à chaque fois que Brecht a essayé de faire un truc, il a échoué dans sa volonté politique. On peut le dire d'à peu près toute chose, enfin bon, mais c'est une expérience très bête, hein, quand vous sortez d'un spectacle avec deux amis, trois amis, personne n'a vu la même chose, on n'a pas été ému par les... Et heureusement, ou alors c'est pas un spectacle émancipateur. Enfin, les salles qui rient au pas, les salles qui pleurent au pas, ou les salles qui vivent les mêmes émotions, précisément, il y a quelque chose de l'ordre de la massification qui est très suspect. Donc la première chose que dit Rancière, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on met dans la tête des autres, et qu'il faut arrêter de vouloir parce qu'on n'y arrivera pas. On n'arrivera pas à contrôler ça dans une perspective émancipatrice. Je veux dire, les fascistes, certains publicitaires, certains neurocognitivistes y arrivent certainement, mais dans une perspective d'émancipation sociale ou d'émancipation individuelle ou intellectuelle, c'est pas l'enjeu. Deuxième chose qu'il dit, et qui est à mon avis plus importante, c'est évidemment, il reprend le vieux modèle de Joseph Jacotot, donc ce pédagogue fou, ce maître ignorant qui découvre deux choses, c'est qu'on ne peut enseigner que ce qu'on ignore, enfin, parce que la chose qu'il faut enseigner, c'est ce qu'on ignore, que le vrai rapport, c'est un rapport d'égalité instauré, donc c'est l'égalité des intelligences et des capacités qui est si mal. Alors là, aujourd'hui, le problème de Rancière aussi, c'est qu'il est hyper mode dans le théâtre, ils sont tous ranciériens. Il n'y a pas une plaquette de saison de théâtre où vous n'avez pas le partage du sensible et l'égalité des intelligences. Et il n'y a pas une exposition au monde où Rancière n'est pas invité pour faire la conférence inaugurale. Ce qui est un problème parce qu'il se prête, à mon avis, beaucoup trop à ce jeu. Si on essaye de penser Rancière, c'est beaucoup plus radical et subversif que ça en a l'air. Le partage du sensible, c'est pas un truc cato, on partage le pain. Le partage du sensible, c'est un truc haineux. Enfin, je veux dire, le partage du sensible, c'est qu'il y a une disposition à peu près harmonieuse, puis il y a des gens qui sont pas dans le gâteau et qui veulent y rentrer, quoi. Il y a des gens qui viennent exiger l'égalité. Et ben, les autres, ils laissent pas faire. On a eu un exemple très frappant ici, à Saint-Denis, qui a été l'exposition Exhibit B, au début de l'année, donc, qui était l'exposition, ce spectacle, qui renouait avec les exhibitions de personnes noires esclavagisées. Donc vous aviez le public qui passait, qui voyait des tableaux vivants avec des noirs enchaînés, qui les regardaient en suppliant avec des yeux pleurants et avec de la musique classique derrière, parce qu'il s'agissait quand même surtout pas oublier d'être vraiment lourdingue dans le type de scénographie et dispositif qu'on mettait en place, mais être sûr de bien arracher des larmes aux spectateurs, des larmes de culpabilité. Et vous avez, donc c'est un spectacle qui a un peu tourné. Alors moi, je ne l'ai pas vu en entier, j'en ai vu juste un bout à Avignon il y a 2 ans, parce que j'avais un copain technicien, donc j'avais vu une générale. C'est épouvantable, hein, entre nous. Bon, c'est bon. Et donc, des associations noires, de militants noirs ont protesté au début de l'année, notamment à Saint-Denis. On leur a quand même envoyé les flics, quand même. Et il y a des gens qui vont passer en procès quand même sur cette chose-là, parce qu'ils ont demandé une déprogrammation d'un spectacle. Évidemment, dans le langage de la domination théâtrale, c'est devenu, ils ne demandent pas la déprogrammation, ils demandent l'interdiction, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. L'interdiction s'adresse à l'État, la déprogrammation s'adresse au programmateur en lui disant peut-être qu'on ne va pas programmer ça. En tout cas, ils ont essayé de faire de la politique. Et ce qui était tout à fait intéressant, c'est de regarder comment le monde théâtral, alors le directeur du théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis notamment, leur a répondu. Avec quelle arrogance de colon on leur a répondu, en expliquant, et c'est exactement ce que raconte Rancière dans La Mésentente. Rancière prend l'exemple de la révolte des plébéiens, et vous avez les patriciens qui entendent du bruit, mais qui n'entendent pas du discours, quoi. Qui entendent du brouhaha. Mais de la même manière que les hommes, au début des années 70, avaient beaucoup de mal à entendre que les femmes tenaient un discours, quoi. Puis à un moment donné, le rapport de force a fait que c'était un discours, articulé et qui exigeait l'égalité. Bon. Mais il y avait comme ça une espèce de manière, mais c'est comme hier, si on allumait la radio, alors c'est compliqué d'écouter la radio en ce moment parce qu'il n'y a vraiment plus qu'Europa, RTL et c'est un peu dur, mais quand on parle des grévistes, ça grogne. Ben non, les grévistes, ça a des revendications. Quoi. Bon. Et c'était exactement la même chose. Le monde du théâtre, ces derniers mois, nous a expliqué que ces Noirs ne comprenaient rien à l'art. Bon. Et c'est tout à fait intéressant parce que c'est un cas d'école de ce qu'est le partage du sensible. C'est-à-dire, il y a un partage du sensible dont une partie de la population est exclue. Je ne sais pas s'ils ont raison, ces militants. Je sais juste qu'ils venaient demander à ce qu'un débat s'ouvre sur la question de qu'est-ce que le sensible et qu'est-ce que la représentation et son auto-représentation. Et que le monde blanc, pour prendre des catégories un peu massives, le monde blanc a juste répondu, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. En gros, à Vallier de Lide, on a essayé de discuter de savoir si les Indiens avaient une âme. Eh bien, à Saint-Denis, en 2010, on a tranché, les Noirs n'ont pas de goût artistique, quoi. C'est-à-dire, ils ne comprennent rien à la question de l'art. Et je trouve qu'il y a quelque chose là qui se joue, qui est tout à fait symptomatique de ce que Rancière essaye d'expliquer sur le partage du sensible, encore une fois, qui est une chose brutale. Pareil pour l'égalité des intelligences et des capacités. J'ai une collègue que tu connais de Strasbourg qui a écrit un texte pour expliquer un spectacle. C'est un spectacle merveilleux parce que c'est un spectacle qui croyait en l'intelligence de son spectateur. C'est quand même le minimum de croire en l'intelligence des gens à qui on s'adresse, quoi. Rancière ne nous dit pas « croyez que les gens sont intelligents en face de vous ». Rancière dit « nous avons une égalité d'intelligence ». C'est pas du tout la même chose de postuler son égalité que de postuler l'intelligence de l'autre. Se postuler à égalité d'intelligence, ça veut dire arrêter de se comparer en plus ou en moins. Ça veut dire arrêter de considérer que l'autre est quelqu'un qui ne sait pas, à qui je dois apporter un savoir pour le mettre à mon niveau, qui est quand même la modalité traditionnelle de l'enseignement, et notamment l'enseignement universitaire, qui est « tant que tu ne sais pas, tu te tais, et tu as encore quelque chose à apprendre que je vais t'expliquer ». Donc l'enjeu du spectateur émancipé, c'est de venir mettre en crise cette question-là, c'est-à-dire comment, pour la poser un peu brutalement à la Rancière, vouloir émanciper quelqu'un, c'est de maintenir sous sa tutelle. On n'émancipe pas quelqu'un. Émanciper quelqu'un, c'est considérer encore qu'on met ses idées dans la tête d'un autre, et c'est donc le maintenir dans un état de dépendance et pas du tout permettre son autonomie. Alors, on voit bien que là, on est quand même pris face à une chose que moi je trouve tout à fait stimulante, d'aller au théâtre et de se dire pour qui on me prend. C'est pour ça que l'hypothèse que je fais dans le bouquin, là, c'est d'aller au théâtre en disant mais quel est le spectateur idéal de ce spectacle, quoi ? Ils ont rêvé à qui ? Il s'adresse à qui ? Et c'est cruel pour beaucoup de pièces de théâtre politique, quoi. Parce qu'encore une fois, bien souvent, on est managé, infantilisé. Bien souvent, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas confiance dans mon intelligence. Hein. C'est-à-dire, il faut tout m'expliquer. Ou alors, on me dit des choses tellement bêtes que j'avais pas besoin d'eux pour en prendre conscience. Ou alors, on me fait vivre des émotions qui sont absolument homogènes ou redondantes aux émotions du néolibéralisme. C'est tout à fait intéressant de voir aujourd'hui un certain nombre d'artistes venir se référencer au Artaud, au situationniste, en disant qu'aujourd'hui, il s'agit de jeter le spectateur dans une intensité de vie, parce que le spectateur, c'est un être à distance du caractère frénétique de la vie. Enfin, on est tous saisis aujourd'hui dans le flux. Et contrairement aux années 60, je veux bien croire qu'au moment des yéyés, l'enjeu, c'est que les vies redeviennent un peu intenses. Mais aujourd'hui, peut-être l'enjeu, c'est des périodes de calme, quoi. C'est qu'on puisse un tout petit peu se retirer de ce flux et de cette frénésie. Donc, faire l'expérience en tant que spectateur de à quel endroit on me place et quel est le spectateur idéal, c'est aussi interroger les procédures politiques spontanées, inconscientes ou conscientes qui sont à l'œuvre dans le spectacle, et considérer qu'il peut y avoir des spectacles de gauche tout à fait bien dans ce qu'ils racontent, et qui sont des spectacles absolument infantilisants, abrutissants, abêtissants et aliénants. À partir de là, on se retrouve face à une difficulté parce que une fois qu'on a fini la lecture de Rancière, on est pris dans une double impossibilité. Première impossibilité, enfin, dans un double contexte. Le théâtre politique s'est massivement organisé autour de l'idée que sa tâche, c'était de faire prendre conscience aux gens. Rancière vient nous dire, un, c'est impossible, deux, c'est pas souhaitable dans une procédure d'émancipation. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait à cet endroit-là ? Parce que si on ne peut rien dire sur ce qu'on essaye de produire chez le spectateur, c'est parce que d'une part c'est infaisable et d'autre part c'est politiquement réactionnaire ou conservateur ou je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait ? Me semble-t-il, alors j'ai essayé de le faire dire à Rancière mais il veut pas, mais je suis plus têtu que lui donc je vais y arriver. Enfin il le dit mais bon. Me semble-t-il, la question quand on lit attentivement le spectateur émancipé, c'est pas du tout la question du spectateur émancipé, c'est la question de l'artiste émancipé. Et je pense que le vrai processus de subjectivation, c'est celui de l'artiste. Alors, je m'explique. Je crois que ce que vient dire Rancière, c'est que... C'est quoi la définition de l'émancipation chez Rancière ? Qui est une définition qu'on peut prendre que ponctuellement, mais à titre pour travailler, quoi. Être émancipé... C'est être émancipé de la volonté de produire des effets sur quelqu'un d'autre. C'est ça la formule complète chez Rancière. Être émancipé, c'est arrêter de vouloir produire des effets sur l'autre. Ou arrêter de croire qu'on va produire des effets sur l'autre. Être émancipé, c'est pas être déjà libéré. C'est comprendre que chacun fait ce qu'il peut, ce qu'il veut, chacun bricole. Chacun, vous savez, c'est la fameuse phrase de Joseph Jacotot dans sa pédagogie panécastique. Jacotot dit, il y a une chose, la pédagogie, c'est savoir qu'on sait quelque chose et y rapporter tout le reste. Mais il faut déjà savoir qu'on sait quelque chose. Et tout l'enjeu, me semble-t-il, de Rancière, c'est de venir défendre une conception de l'émancipation. Alors, la limite de ça, évidemment, quand on essaye d'être marxiste ou essayer de penser par rapport aux luttes sociales, c'est qu'il ne peut y avoir pour Rancière d'émancipation qu'individuelle et intellectuelle. Ça met de côté la question de l'émancipation collective et sociale, mais je vais y revenir pour conclure. Donc, me semble-t-il, il faut déplacer la question chez Rancière et arrêter de penser la question du spectateur émancipé. Le spectateur, il fera ce qu'il veut. Il fera ce qu'il peut. Ça dépend de la représentation, ça dépend de... Bon, on connaît la polémique qui est par ailleurs surjouée entre Bourdieu et Rancière, mais où entre un certain type de modèle pédagogique, de modèle de la science qui est censé révéler, bon, et Rancière. Mais il y a quelque chose qui me paraît, d'ailleurs Rancière le dit, dès qu'on nous dit qu'il y a du caché ou de l'invisible, on se met dans une position de pouvoir parce qu'on se met en position de venir révéler à l'autre ce qui est caché ou ce qui est dérobé au regard. La question, c'est de rompre avec cette position du maître et d'adopter la position du maître ignorant. Le maître ignorant, c'est pas un maître qui ne sait pas. Le maître ignorant, c'est le maître qui décide sciemment d'ignorer les pouvoirs qu'il possède sur l'autre. La formule complète, encore une fois, elle est un peu plus compliquée que juste un maître qui ne sait pas. C'est quelqu'un qui décide sciemment, en quelque sorte, c'est quelqu'un qui décide sciemment d'ignorer le temps de ce rapport, le temps de la relation, d'ignorer les déterminismes sociaux. Ou on pourrait le redire encore différemment, c'était un enjeu d'un débat entre Butler et Delphi, ou dans un autre champ, où Butler disait « Delphi, elle s'intéresse aux mécanismes sociaux de la reproduction, de la domination. Moi, ce qui m'intéresse, c'est raté. Bon. » Je crois que Rancière essaye de généraliser, avec ce que ça veut dire comme fiction et comme mythe, hein, évidemment, mais il essaye de généraliser la possibilité du raté. C'est-à-dire de s'intéresser beaucoup plus à ce qui peut rater dans le rapport de domination. Moi, j'étais très frappé quand, il y a quelques années, l'ignoble Patrick Lelay... avait dit, moi, mon boulot à TF1, c'est de vendre du temps de cerveau disponible, machin. Bon, on a tous gueulé comme des putois, à juste titre, en traitant de fascistes. Mais il n'empêche qu'on ne sait pas s'il y arrive. Moi, je ne sais pas ce qui vraiment se passe. Je pense qu'il y arrive massivement, hein, à vendre du temps de cerveau disponible pour Coca-Cola. Mais je ne suis pas complètement convaincu que ça marche tout le temps. Je trouve que par rapport au pouvoir qu'a la domination aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il maintient, qu'il a à peu près tout dans ses mains, et en plus, ses appareils idéologiques d'État n'ont même plus de rapport de force suffisant pour arriver à mener des bagarres, donc on est à peu près laminé, on est à un moment de défaite historique généralisée d'une extrême gravité, c'est encore surprenant qu'il y ait des ratés. Que ça marche pas complètement, quoi. Que ça échoue. Et l'enjeu de Rancière, c'est en quelque sorte de faire le pari du raté, c'est-à-dire le pari de la suspension des rapports de domination pendant une représentation. Après, moi, ce qui m'intéresse chez Rancière, c'est vraiment la question de la représentation. À mon avis, c'est beaucoup plus difficilement transposable au champ social et à la vie politique. Donc, en quelque sorte, il s'agit de dire une œuvre, elle va fonctionner théâtralement dans la mise en scène ou dans l'expression d'un artiste émancipé, c'est-à-dire, pour le dire, dans un artiste qui a décidé sciemment de nous foutre la paix en tant que spectateur. Voilà. Un artiste qui n'est pas là pour... je change par analogie, mais c'est la clinique de la Borde qui, à un moment donné, Jean-Rouy avait dit « On n'est pas là pour les soigner, on est là pour leur foutre la paix. Bon. » Y a peut-être de ça dans ce théâtre-là, à mon sens, dans un théâtre qui, aujourd'hui, pourrait être émancipateur, c'est un théâtre qui n'a pas décidé quel type d'émotion on devait avoir. Je peux prendre un exemple qui est un spectacle d'un metteur en scène qui s'appelle Bruno Messa, qui avait fait un spectacle qui s'appelait 15%, et qu'il a joué il y a 2 ans au Festival Avignon, il s'est fait massacrer. L'idée, c'était... je ne sais pas si vous connaissez ce livre de Charlotte Bérard, donc cette sociologue qui avait une amie d'Anna Arendt qui, dans les années 30, avait recueilli les rêves des Allemands. Il s'appelle « Rêver sous le Troisième Reich ». Et c'est un livre tout à fait étonnant parce qu'elle note des rêves. Et elle montre comment le nazisme, subrepticement, vient gangréner les rêves, vient gangréner les nuits. Mais il ne le fait pas, il n'y a pas des SS qui débarquent dans les rêves, quoi. Mais il y a des processus d'humiliation, de honte, qui viennent progressivement, qui s'intériorisent au cœur des nuits. On pourrait dire, toute proportion gardée, évidemment, je ne confonds pas le Troisième Reich et le néolibéralisme valsien, mais on pourrait dire, toute proportion gardée, c'était le projet de 15%, c'est-à-dire venir dire qu'est-ce que ça veut dire rêver sous le néolibéralisme. Comment nos rêves, sans plus, je sais pas, comment nos rêves se peuplent de PowerPoint, de paperboard, de procédures d'humiliation aussi, de concurrence. On sait bien que le néolibéralisme, c'est le modèle entrepreneurial, poussé à son extrémité de l'État à chaque individu, on gère sa vie, gère sa carrière, bon. Et l'enjeu du théâtre de Messa, il avait fait travailler ses acteurs sur ces images-là. Bon. Et c'était tout à fait troublant comme spectacle. Ça racontait ça, mais ça racontait ça sans guide. C'est-à-dire qu'on était face à des rêves qui s'expriment. Je sais que pour l'avoir su après, je ne l'avais pas vu, je ne savais pas au moment où j'ai vu le spectacle, qu'en fait, il fait travailler ses acteurs sur les rêves, chacun sur des improvisations, mais les acteurs ne se racontent pas ce qu'ils imaginent entre eux. C'est-à-dire que chacun poursuit son propre imaginaire sur scène, mais ils jouent entre eux. Enfin, je veux dire, c'est des micro-actions, il y a des. Mais il n'y a pas de débriefing autour de la table en disant qu'est-ce qu'on a voulu dire. Et ce qui est très beau dans la position du spectateur quand on est face à ça, alors je ne veux pas du tout en faire un modèle, hein, c'est juste un exemple parmi d'autres, mais ce qui est très beau quand on est spectateur face à ça, c'est que précisément, on découvre, pour une fois dans sa vie sociale, on n'est ni managé, ni infantilisé, ni conseillé, ni pédagogisé, ni assigné. Précisément, on est à un endroit où on est laissé libre de sa puissance d'imaginaire et de son ennui. Ce qui était très beau, c'est qu'il y avait des gens qui riaient, mais pas au même moment. C'est toujours magnifique. Une salle où vous avez des rires qui ne sont pas au même moment. Et vous ne comprenez pas pourquoi il y a un rire qui part là. Bon, voilà. Et c'est toujours glaçant, moi, je trouve, les salles qui sont, qui ont le tempo du rire ou le tempo de la... Et donc, ce qui était passionnant, c'est que ce qu'essayait de faire Messa, c'est d'inventer une forme qui allait jusqu'au bout de sa proposition, à lui, émancipé du souci de venir nous révéler ou nous édifier sur le caractère aberrant, monstrueux, criminel aujourd'hui du néolibéralisme. Je vais m'arrêter, mais ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que il ne s'agit pas tant de défendre des sujets critiques que de défendre des processus de subjectivation, mais de laisser libre le spectateur d'y aller ou pas. C'est-à-dire, encore une fois, il n'y a pas d'obligation à s'émanciper pendant une... Il y a des spectacles, on a l'impression que si on ne s'émancipe pas, on a raté le spectacle. Quoi. Donc on est une espèce d'émancipation à marche forcée, comme si on avait un examen d'émancipation. Encore une fois, l'enjeu, c'est précisément de nous faire vivre... C'est Ben Saïd qui parlait de discordance des temps, d'écharde du présent, d'écharde du futur dans le temps présent. Me semble-t-il, ces représentations, mais elles permettent d'inventer un temps qui n'existe pas encore. Voilà. Elles permettent de nous faire vivre. Un temps, c'est quoi? C'est un type de rapport. Je pense, comme Balibar d'ailleurs, que le marxisme, c'est une ontologie de la relation. On ne fait pas assez attention à quel point dans le marxisme, tout est rapport. Rapport de production, rapports sociaux, bon, tout est une question de rapport. Je pense que le théâtre est un lieu qui peut expérimenter des types de rapports. Et me semble-t-il, dans la conjoncture, mais peut-être que dans 15 ans, je dirais autre chose, dans la conjoncture actuelle, il y a quelque chose de profondément émancipateur à nous faire vivre l'expérience d'un temps où je ne suis pas anticipé. Voilà. Où je ne suis pas anticipé par celui qui crée, parce que celui qui crée ne se pose la question que pour lui, et je ne suis pas du tout sûr que ça produise des gestes autistes. Ça produit juste des gestes qui essayent d'inventer, hic et nunc, une possibilité égalitaire. À ceci près, et pour moi c'est évidemment la limite de Rancière, mais elle marche pour le théâtre, que cela ne peut marcher qu'à l'échelle individuelle. Il n'y a pas d'échelle sociale, sauf que, alors ce qui est intéressant au théâtre, je ne crois pas du tout que le théâtre soit le lieu d'une communauté, enfin tout ça, ça me paraît toujours très suspect. Le théâtre, c'est avant tout, c'est Rousseau dit ça très bien, le théâtre, c'est l'expérience d'une solitude parmi d'autres. Voilà. C'est-à-dire que le théâtre, effectivement, on n'est pas tout seul devant sa télé chez soi, donc effectivement, on est pris dans une communauté, mais on sait bien que c'est les autres spectateurs, c'est insupportable le théâtre, quoi. Ils toussent, ils font du bruit, ils sont là, ils prennent de la place, ils rient à des trucs qu'on ne comprend pas, ils réagissent, ils vivent. Bon, il y a quelque chose, ils sont trop grands, ils sont... Bon, il y a quelque chose qui vient faire... qui précisément est l'apprentissage de cette pluralité-là. Mais je ne crois pas du tout que ce soit, ou alors je pense que ça n'est pas un théâtre émancipateur, même si je ne sais pas s'il y a des conditions d'émancipation, mais ce qui m'intéresse dans le théâtre tel que le défend, en extrapolant beaucoup, parce que ce n'est pas ça qu'il dit, tel que le défend Rancière, c'est précisément que le théâtre, c'est une expérience de la solitude, mais de la solitude prise dans un groupe, où on s'aperçoit que ce qu'on a à faire, ce n'est pas tant à voir ce qui est caché, camouflé ou voilé, qu'à traduire ce qui nous est présenté dans son propre langage, c'est-à-dire savoir une chose et y rapporter tout le reste. Voilà, je m'arrête là.
Merci. Bien, merci beaucoup. On a plus d'une heure pour discuter. Donc la parole est à la salle.
Merci beaucoup pour
Présente-toi. Oui. Présentez-vous quand vous avez la parole.
Je suis doctorante et à peine ici. Je voudrais peut-être une question un peu épineuse. tard de l'opprimé, donc Soboal. Peut-être vous voyez le lit. Et justement, c'est pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une forme de théâtre qui est assez humble dans la façon dont elle se présente. C'est-à-dire qu'il y a des scènes, on invite le public à intervenir, et le public rejoue les scènes pour se donner des moyens concrets pour répondre à des agressions. Et on peut même jouer des scènes vécues par les spectateurs. Et du coup, même la distinction entre spectateur et acteur est abolie entièrement. Donc, je me disais, à la manière comme Rancière peut présenter cette critique de théâtre, Auguste Leboile, il pense l'émancipation de façon très collective, et je voulais savoir ce que vous en faisiez, parce que ce n'est pas un théâtre comme celui de Castellucci ou de Rodrigo Garcia, mais au contraire, c'est un théâtre un peu plus humble et qui concrètement peut donner des moyens d'émancipation. Est-ce que...
Ah oui, alors j'étais à Porto la semaine dernière pour un festival de théâtre de Lecoumé. Justement, donc je me suis tapé toute la semaine dernière. Et donc je reviens assez convaincu de... C'est, par ailleurs, c'était passionnant et je trouve que c'est une forme tout à fait... Peut-être on peut raconter l'anecdote qui donne naissance au théâtre de l'opprimé, parce que elle est... Alors c'est une fiction, c'est un mythe. Hein. A priori, Boal l'a inventé a posteriori. Mais, donc Boal, qui était un militant d'un groupe révolutionnaire armé brésilien, faisait du théâtre militant avant de rentrer dans le groupe militaire armé. Qui explique qu'il va, qui, c'est pour ça qu'il va aller en tôle, parce qu'après en France il a dit que c'est parce qu'il avait fait du théâtre de l'opprimé, mais c'est pas vrai, c'est parce qu'il était dans son groupuscule. Mais peu importe, ça a plu beaucoup aux artistes de dire on pouvait aller en prison parce qu'on faisait du théâtre. Mais bon, dans les années 60, il fait du théâtre militant, il fait du théâtre politique. Et il y a une expérience qu'il raconte dans deux de ses livres, mais encore une fois, elle est à mon avis fausse, mais elle est très belle et elle est très emblématique. Il raconte qu'il passe de village en village et à la fin de la scène, il tend les fusils en disant allons verser notre sang. Et puis un jour, il y a un paysan qui vient, qui dit « ça tombe bien, demain on s'attaque au petit propriétaire à côté, donc super, venez ». Et donc là, les acteurs blêmissent en disant « oui, mais en fait, c'est pas des vraies armes, c'est des fausses armes ». Et là, bon, le paysan, Felipe, dit, Virgilio, dit « non, mais c'est pas grave, nous on en a ». Et là, les acteurs reblêmissent en disant « oui, mais on sait pas s'en servir ». Et là, Virgilio leur dit « ah oui, quand vous dites « versons notre sang », vous parlez que du nôtre ». Et Boal prend conscience que le théâtre, ce théâtre d'avant-garde, mais qu'on connaît, c'est le modèle léniniste, je viens apporter le savoir de l'extérieur, enfin le modèle léniniste, pas le Lénine relu par Ben Saïd, mais le modèle léniniste classique, orthodoxe. Donc Boal prend conscience effectivement qu'il y a un partage qui ne fonctionne pas avec un savoir extérieur qui est apporté aux autres. Et donc il invente ce qu'il a appelé le théâtre de l'opprimé, qui est une référence à Paulo Freire sur la pédagogie de l'opprimé, sur l'idée qu'il faut inventer une séparation entre acteur et spectateur. Enfin, il faut rompre avec la séparation acteur-spectateur. Il invente le spectateur et il invente des formes qui sont essentiellement... Alors, il y a plusieurs types de méthodes. Il invente une méthode, théâtre invisible, et notamment la forme la plus connue. Le théâtre de l'opprimé, c'est, je crois, la forme théâtrale la plus jouée dans le monde aujourd'hui. Il y a une troupe indienne, le Jana Sanskriti, où il y a des milliers de participants. À Porto, la semaine dernière, on était 300. Enfin, c'est assez... En Amérique latine, au Brésil, ça a complètement influencé le mouvement des Sans-Terres. Ils ont une section culturelle du mouvement des Sans-Terres qui est tout à fait étonnante. Le théâtre forum, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une chose assez, assez intéressante. Vous avez une scène qui est jouée, qui est une scène d'oppression. On la joue une première fois, 20-25 minutes. Alors ça peut être une scène d'oppression de genre, d'oppression de race ou d'oppression de classe. On la joue une première fois, on arrête, on la rejoue une deuxième fois. Et si quelqu'un dans le public a une solution, il interrompt la représentation, il monte sur le plateau, il prend la place d'un des personnages, on joue. Et l'idée, c'est qu'après, évidemment, tout ça est soumis à la discussion. Et l'idée, c'est collectivement d'inventer des émancipations ou des issues collectives dans le débat, dans la discussion et dans le jeu. Moi, je crois que Boal, au-delà du fait que c'est absolument passionnant et que c'est un outil assez fort, moi, je vois quand même deux, trois soucis. Le premier, c'est, par rapport à Rancière, c'est que quand même, ça continue à penser qu'un spectateur, c'est un être passif. C'est-à-dire qu'il faut rompre avec la passivité du spectateur en le faisant devenir spectateur. C'est-à-dire qu'un spectateur qui joue... Et d'ailleurs, la formule que j'employais tout à l'heure de Frantz Fanon, « Tout spectateur est un lâche ou un traître », Boal n'arrêtait pas de la citer dans les années 70. C'est-à-dire l'idée quand même que le spectateur, c'est un être diminué par rapport à ce qui... Donc, il faut le faire jouer. Et que donc, il y a une expérimentation par le jeu. La deuxième chose, me semble-t-il, qui fait que y a un souci, entre guillemets, parce que encore une fois, c'est une forme... C'est que Boal se réclame du modèle socratique en disant c'est une maïeutique ce théâtre-là. Rancière n'arrête pas de dire il n'y a pas plus abrutissant que le modèle socratique. Parce que le modèle socratique, Socrate sait ce qu'il veut faire découvrir à celui à qui il s'adresse. Et dans le théâtre de l'opprimé, dans le théâtre forum en tout cas, il y a une figure qui est là et qui sait, c'est le joker. Donc c'est-à-dire dans le théâtre forum, il y a un animateur. Et l'animateur qu'on appelle le joker, alors il y a des débats la semaine dernière, ils n'en pouvaient plus, il y en avait des débats sur le joker, à plus savoir qu'en faire, à quoi ça sert, comment il doit intervenir. Mais il n'empêche qu'il y en a un qui sait vers où on va. Alors, ça peut ne pas être complètement directif et autoritaire. Mais il y en a un qui sait un tout petit peu mieux que les autres quand même, qui a un tout petit peu plus la maîtrise de la représentation que les autres. Et c'est pour ça que je trouve que, autant c'est une forme qui... En fait, moi, je trouve que le théâtre de l'opprimé, c'est super intéressant dans les groupes militants déjà constitués. Voilà. Je trouve que pour des gens qui ont un bagage commun, par exemple le théâtre invisible, il a été beaucoup fait, je pense à un groupe LGBT dans les années 2000 qui s'appelait les Panthères Roses, qui a beaucoup pratiqué du théâtre invisible. Bon, en gros, ils jouaient des agressions homophobes en plein cœur de Paris. Mais ce n'était pas tant intéressant sur ce qu'ils révélaient aux gens. C'était intéressant pour eux, c'était un terrain d'enquête. Et donc, ça leur permettait un retour. Ils n'ont pas fait baisser l'homophobie en France d'un iota avec ce type de... Mais en revanche, c'était, je crois, dans leur intervention... Suivant, et pareil, la semaine dernière, il y a eu du théâtre invisible sur une agression d'une femme dans le métro à Porto. Mais encore une fois, moi, ce qui m'intéresse dans le théâtre de l'opprimé, c'est quand il ne fait pas croire à la. Quand il ne joue pas l'idée que l'hétérogénéité de la salle est souhaitable. Pour des groupes militants déjà constitués, je trouve que c'est un sacré outil pour penser. Mais ça demande, à mon sens, un bagage commun. Sinon, je trouve qu'il y a un mensonge inégalitaire qui est derrière. Avec quand même quelqu'un, un dispositif où certains gardent le pouvoir. Je ne sais pas si je suis... Mais je, enfin, ce n'est pas une forme que j'ai envie de cartonner, parce que je trouve qu'elle produit des choses assez passionnantes. Et franchement, la semaine dernière, il y avait le responsable culturel du mouvement des Sans-Terres de Rio, ce qu'il racontait sur leur usage du théâtre de l'opprimé, du théâtre forum notamment. Mais parce que c'est des groupes de militants, hein, c'est assez fascinant sur comment précisément... Il faisait du théâtre forum pour mettre en crise les rapports viriloïdes, parce qu'on sait comment les groupes reconstruisent et reconduisent assez spontanément ça, à l'intérieur du mouvement des Sans-Terres. Donc ça leur servait comme mise en crise des rapports spontanés d'autorité d'hierarchie, mais pour une communauté déjà constatée. L'autre souci par ailleurs du théâtre de l'opprimé, mais ça Boal n'y est absolument pour rien, c'est la façon dont ça a été récupéré notamment en France dans les années 80, et c'est devenu un théâtre non plus de l'exacerbation de la conflictualité de classe ou de la conflictualité sociale, mais c'est devenu un endroit de pacification. C'est-à-dire, dans les entreprises, on faisait faire du théâtre forum pour que les secrétaires apprennent à parler mieux à leur patron, quoi. Une espèce de truc où ça va mieux en discutant, quoi. Une espèce d'éthique de la habermasienne, une éthique de la communication. Mais ça, Boal n'est pas comptable de ça. Mais voilà, je trouve que c'est une forme formidable si on part tous d'un bagage commun et si c'est dirigé vers la pratique. Et pas... parce qu'encore une fois, le théâtre invisible, donc vous avez des acteurs qui vont jouer dans la ville sans dire qu'ils sont des acteurs des situations d'oppression. C'est quand même une position inégalitaire, hein, de considérer que nous, on n'en sait plus sur l'oppression et qu'on va révéler aux individus leur lâcheté dans le métro quand ils n'interviennent pas pendant une agression. Je trouve qu'il y a encore une manière de se positionner en surplomb et de fonctionner sur l'édification, quoi, voilà. Mais c'est que des avis. Par ailleurs, je suis sûr de rien, je le dis de manière très définitive, mais je suis sûr d'à peu près rien. Plus humble que ça.
Merci beaucoup. Marianne Mazon, du département esthétique et musicologie, je suis ici à Paris. Je voudrais commencer par, ce que vous avez dit à la fin, pardon, Rancière, il y a un passage magnifique vers la fin du portrait de Sensible, où il explique comment l'image, qui regarde l'image doit culpabiliser du fait de regarder cette image, alors qu'au final, en fait, ça ne l'aide pas autant à s'émanciper, étant donné que s'émanciper, c'est prendre conscience du fait qu'il fait partie de ce qui est, opprime. Or, il doit être conscient de cela avant de regarder cette image pour qu'elle ait cet effet, ce qui n'est pas le cas. Donc, jusque-là, c'est tout le modèle, tout le modèle éducatif, en quelque sorte, c'est cool. Hein. Et avec lui, tout pouvoir d'émancipation par un contenu artistique, par un art ou un autre, même en contenant, même en ayant un potentiel critique. Alors, déjà à ce moment-là, on se demande ce qui reste dans le théâtre lui-même, autre que l'artiste, c'est-à-dire la pièce de théâtre elle-même. C'est-à-dire que si il faudrait aussi émanciper la pièce de théâtre elle-même de tous ses objectifs d'éducation ou de dévoilement, etc., etc. Donc ce qui reste, c'est la matière théâtrale elle-même, c'est-à-dire ce qu'on peut faire avec un langage et ce qu'on peut faire avec des formes de théâtre. Tout ça, vous voyez venir, c'est pour proposer des expériences qui ont été faites dans ce qu'on appelle le théâtre musical. Je crois que c'est la première fois que je parle de musique ici. Mais qui, justement, ne prévoyait pas justement un dispositif de dévoilement ou qui ne pensait pas au préalable au spectateur au moment de la création de la pièce, étant donné que c'est aussi une création musicale. Et comme on peut l'imaginer, là on est dans un système, enfin quand on est en musique, c'est un système d'invisible beaucoup plus compliqué, d'autant plus qu'il n'y a aucune intention signifiante. Voilà. Et donc, par rapport à ça, j'aimerais savoir ce que vous en pensez du théâtre musical en général, mais ça c'est plutôt énorme, mais de quelques expériences faites, que ce soit en Italie dans les années 60, 70, 80, avec Luigi Nono, Luciano Berio, Maderna et autres, et même en France avec des personnes comme Georgia Perkis, principalement Georgia Perkis, il faut le dire.
Ça va être compliqué pour vous répondre sur la question purement du théâtre musical, parce que où il y a Georges Apex, où il y a d'autres, il y a des gens qui, après je peux avoir du goût pour certaines de ses œuvres. Je travaille pas trop dessus parce que, alors à part Nono, la chose elle est plus claire, ou même Berio, l'objectif d'Apergui c'est pas ou Robotier, c'est pas des objectifs politiques. Moi ce qui m'intéresse c'est quand il y a un projet politique. Dans mon boulot, après, ça ne veut pas du tout dire que je ne considère pas que ces pièces sont émancipatrices, je pense qu'elles le sont, elles peuvent l'être. Après, c'est tout à fait étonnant de s'apercevoir que Rancière ne parle jamais de musique. Rancière, ça ne fonctionne que sur des mots, ou que sur des images très signifiantes ou très significatives. Et effectivement, il y a quelque chose qui, à mon avis, dans la musique, pour lui, est complètement tellement équivoque que son système s'écroule, s'effondre. Bon, ça, c'est un peu compliqué pour moi de vous répondre. J'ai vu des spectacles d'Apergis. Ou de Goebbels, tout à fait étonnant et complètement émancipateur en tant que spectateur, mais leur objectif, me semble-t-il, ou leur projet n'était pas un projet politique. Moi, j'essaye vraiment de travailler sur un théâtre qui se donne un projet politique ou qui se donne pour projet une question politique et qui, pour autant, ne renouvelle pas ou ne reconduit pas une position infantilisante ou surplombante. J'ai un débat assez brutal en ce moment avec une collègue qui dit mais Rancière ça produit à être dans l'indécidabilité du sens. Et moi je crois pas. Je crois qu'on peut tout à fait dire des choses tout à fait fermes sans pour autant vouloir que l'autre pense la même chose. C'est pas parce que je dis moi je dis je suis marxiste et vous faites bien ce que vous voulez, quoi. J'ai pas envie de vous convaincre. Je dis juste l'endroit où moi ça m'intéresse de travailler. Et je poursuis cette obsession, comme dirait Rancière ou Jacotot, je suis dans mon propre orbite et je travaille mes trucs. Et donc l'enjeu, je pense que ça ne va pas de soi que, que ça produit de l'indécidabilité. Voilà. Et encore une fois, par ailleurs, évidemment, tout ce que je raconte, pour moi, ça a des répercussions dans le champ politique. Avec quelque chose qui est arrivé aujourd'hui dans un essoufflement total, qui est la forme partie telle qu'on a pu la connaître, où vous avez, là quand on regarde ce que l'extrême gauche peut raconter sur la Grèce, c'est à pleurer, quoi, je veux dire, comme position arrogante, surplombante de l'extérieur, où ils écrivent tous, le peuple grec n'a encore pas compris, mais nous on sait, il vit dans l'illusion, puis un jour il va se réveiller et découvrir que Syriza c'est des traîtres, enfin je veux dire, on est dans une espèce de rhétorique complètement sclérosée, espèce de, bon. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est évidemment ce rapport-là. Sur Rancière, là où je vous suis complètement, Et moi, c'est un truc qui, à mon avis, est sa limite, c'est que Rancière ne travaille paradoxalement pas les œuvres en tant qu'œuvres. C'est-à-dire que ce qui est émancipateur chez Rancière, c'est tout. Donc, il le dit, je crois d'ailleurs, une devanture de magasin est tout aussi émancipatrice que je ne sais pas quelle toile, que je ne sais pas quelle... Parce que tout est possiblement une forêt de signes qui est à charge pour nous de la traduire ou de l'incorporer dans son propre imaginaire. Il le dit au tout début du spectateur émancipé. Et par ailleurs, ce n'est pas faux. Il y avait un spectacle d'un metteur en scène, Benoît Lambert, qui a travaillé avec un auteur contemporain, Jean-Charles Masséra. Et ils ont beaucoup travaillé sur les processus d'émancipation un peu nazes. Il y avait un spectacle qui s'appelait We Are l'Europe, où il y avait des gens qui venaient sur scène raconter comment ils s'étaient émancipés sur du Daniel Balavoine ou sur du Renaud. Alors ils venaient, puis ils chantaient Mistral Gagnant ou Ziza, qui est une chanson raciste, abominable, mais peu importe. Et au début, public de gauche, on ricane, et puis au bout d'un moment, on se dit « Mais au nom de quoi je me moque ?» de ce qui a servi à quelqu'un à se désidentifier, puisque chez Rancière, un processus de subjectivation, ça fonctionne sur de la désidentification. C'est précisément ne pas tenir à sa place, quoi. C'est ne pas tenir sa place. Et ne pas tenir à sa place. Et tout le travail de Masséra et Lambert, c'était de venir réennoblir, d'une certaine manière, le fait que dans nos procédures d'émancipation, elles sont pas pures, elles sont corrompues par la société de consommation. Il racontait dans We Are la France, qui était un très joli spectacle, comment, sur un champion cycliste, ça plairait à Brome, comment il a fait une expérience d'émancipation, parce qu'à un moment donné, dans l'effort physique, moi je sais même pas ce que c'est faire un effort physique, donc je peux pas, mais j'ai compris l'enjeu de pensée, comment dans un effort physique, il a fait l'expérience d'une autre temporalité, d'une autre durée, d'une épaisseur du temps. Mais c'est un truc à la fois complètement micro, complètement naze, et j'entends ce que dit Rancière en disant « tout peut servir à de l'émancipation ». Après, moi, je pense que ça vaut le coup aussi de penser l'œuvre en tant qu'œuvre, c'est-à-dire de penser sa spécificité et sa singularité. Et c'est un des paradoxes, me semble-t-il, qu'il faudrait arriver à penser. Moi, je ne sais pas trop, je vais peut-être dire des... Mais c'est Octavio Paz qui dit « de la même manière qu'un jour l'humanité a inventé l'érotisme, et l'érotisme, ça ne sert à rien dans la reproduction de l'espèce, hein, on n'en a pas besoin ». L'humanité a un jour inventé la poésie. Et la poésie, ça ne sert pas à grand-chose dans la communication. Bon. Et moi, je me demande si, effectivement, l'un des enjeux de l'œuvre, c'est pas de venir suspendre le régime communicationnel. Et à cet endroit-là, je trouve que si on le rapproche de Rancière, ça fonctionne parce qu'un artiste émancipé, c'est pas quelqu'un qui a quelque chose à nous communiquer. C'est quelqu'un qui met en suspension ça. Voilà.
Donc les deux régimes, le régime politique et le régime esthétique peuvent fonctionner chacun comme étant un ensemble de dispositifs capables d'agencer des réalités de façon différente.
Oui.
Dans ce cas-là, est politique quand il n'est pas politique. Enfin, si on suit la même vision, à partir de ce moment-là, l'art est politique à partir du moment qu'il n'a pas un mandat politique au final. C'est-à-dire quand vous dites « je pars d'un projet de théâtre » Quand il est politique, c'est-à-dire, enfin, mais comment il est envisagé si on veut pas éduquer, ça veut dire que la pièce, que ça va être des pièces à programme, ça va être dans des brochures, ça passe par le signifiant, ça passe par le sensible. Comment le projet politique peut être identifié à ce moment-là ?
Je me suis lâchement délesté de cette question. En travaillant de manière tout à fait lâche, en disant je travaille sur le théâtre dont les artistes disent qu'ils veulent faire du théâtre politique. Mais c'est une réponse totalement lâche, je vous l'accorde. Mais là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est que je crois que précisément, c'est l'une des maladies du XXe siècle, et c'est l'une des maladies du léninisme, et moi je me dis léniniste, hein, donc je dis ça, c'est pour moi hein, que je dis ça, c'est cette réduction de la politique à la pédagogie. Je pense que la politique, c'est une création. C'est créer du temps, c'est créer des rapports. Alors, c'est créé, c'est pas forcément à la ticoune, on crée dès maintenant le communisme, hein, mais c'est créer d'autres types de rapports, d'autres rapports à la temporalité, c'est faire venir du temps futur dans le présent, ce que Bloch appelait la non-contemporanéité, c'est à mon avis, et je crois qu'il y a je pense qu'il y a une part de la politique et de la pédagogie, pourquoi pas, j'ai rien contre, enfin, je veux dire, comme d'autres, j'ai distribué des tracts, même si ça sert à rien, ça permet de parler avec les copains qui distribuent, mais je pense qu'il y a une réduction, hélas, de la politique à de l'agitation ou à de la propagande, et me semble-t-il, c'est oublier toute une part de la politique qui serait, pour reprendre la formule de Ben Saïd, un art stratégique des médiations, un art stratégique du temps, et là, je pense que C'est pour ça que je suis pas d'accord pour dire, à partir du moment où ça dit que c'est politique, c'est forcément dans la pédagogie. Non, ça peut être politique dans l'expérimentation in situ de nouveaux rapports sociaux. Le temps d'une représentation, dans le mythe, que ça pourrait s'élargir, s'agrandir, corrompre possiblement. Bon. Mais encore une fois, je pense que ce dont souffrent aujourd'hui les organisations de gauche ou d'extrême-gauche, c'est d'une... Alors, je parle même pas... Enfin, de gauche, donc pas le PS. C'est d'une réduction de la politique à la pédagogie. Je pense que ça... Encore une fois, c'est pas antagonique, mais cette superposition-là, on est en train d'en crever, quoi. Parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui savent et d'autres qui savent pas. Et que, en gros, l'un des objectifs, mais c'est à pleurer, hein, l'un des objectifs de à peu près tous les groupes politiques, qu'ils soient politiques partidaires ou qu'ils soient politiques, c'est quand même d'être, de venir rendre intelligible le réel à ceux qui ne le comprennent pas et qui sont souvent par ailleurs les principaux concernés, quoi. Et alors là, on est dans une, et on n'en sort pas de ça. Mais de toute façon, on va pas en sortir pour l'instant, enfin, on va avoir un petit moment, quoi. Non, ça.
Merci. Moi, je serais tenté de faire une dégression. Mmh. Dans le développement historique des théâtres de la paix politique, je me pose la question où se situe l'âge d'or du théâtre politique, ou il faut l'attendre, parce qu'il va venir. Je pose bien la question sérieusement. Parce que je pense que. Les gens qui vont à l'heure actuelle du néolibéral, même pendant les 30 glorieuses, à mon avis, les gens qui vont voir le théâtre politique sont déjà motivés, il me semble. Ils sont déjà motivés, ils ont déjà l'esprit critique, et puis ils vont peut-être se confronter au théâtre, soit pour confirmer ce qu'ils ont en eux, ou alors pour dire non, c'est des conflits, etc. Mais je pense, déjà, il y a une sélection dans la population. Et en plus, le moment qu'on vit actuellement, nous avons la chance d'avoir un grand théâtre gratuit, disponible pour tout le monde, c'est le monde politique. On a les acteurs, ce sont les politiciens, puis on a les spectateurs, là c'est la digression. Les spectateurs, ce sont la population. Et on voit trop bien le réflexe, hein, si on part du discours de la campagne électorale jusqu'à maintenant, on voit que le public, il était très, très face aux déclarations de l'époque de Hollande, je vais faire, il était vraiment très enthousiaste. Et puis on voit au fil de l'eau que cet enthousiasme baisse de plus en plus. Hein, même s'annule, disons. Alors le théâtre actuellement, quelle est vraiment sa place? Est-ce qu'il émancipe réellement? Ça, c'est pas que je vous en doute, hein, mais est-ce que les gens, est-ce qu'ils vont au théâtre vraiment pour chercher une émancipation? Ça, je ne sais pas aussi. Hein. Donc, ça reste quand même un gros point d'interrogation.
Ouais, c'est la question du public. Ben, je ne sais pas répondre. Je ne sais pas répondre à part que on a un vrai souci, c'est que les artistes ont été, et ça, c'est un vrai problème. De toute façon, Sarkozy a fait ça avec tout le monde. Ils ont été archi-culpabilisés sur le fait qu'ils auraient raté la démocratisation culturelle. Et on les a rendus responsables de quelque chose dont, à mon avis, ils ne sont pas responsables. Vraiment pas, parce que là, on le sait, hein, ils sont en train de tout casser. Et même, c'est tout à fait intéressant de regarder l'exemple d'une ville front de gauche comme Grenoble. Ce que le front de gauche est en train de faire à Grenoble artistiquement, c'est un massacre. C'est un massacre. C'est-à-dire qu'ils défendent la grande maison de la culture, parce que c'est plein. Évidemment, il y a des stars, il y a tout ça. Et ils défendent les associations. Et tout l'étage intermédiaire d'artistes qui travaillent depuis 10-15 ans, qui fait du travail social aussi, dans les prisons, dans ces machins-là, tout ça est en train de dégager au nom du fait que ce serait élitiste. Et tout le maillage artistique en France est en train de sauter. Et moi, je trouve qu'on leur a fait un procès, mais comme on a fait un procès aux universitaires sur « Putain, vous ne formez pas les jeunes à un boulot, vous êtes responsable des millions de chômeurs. » Enfin bon. Donc, et ça marche, hein, cette entreprise de culpabilisation. Donc moi, je suis quand même... Effectivement, il y a un échec de la démocratisation culturelle. On peut aussi le regarder à l'envers. Entre le moment où Malraux commence la démocratisation culturelle, enfin, il n'appelle pas ça la démocratisation culturelle, mais au moment où se met en place le ministère de la Culture en 59, dont il faut quand même rappeler, à propos de Maître Ignorant, l'origine. C'est-à-dire que quand Malraux voulait un ministère pour service rendu à la République, et De Gaulle, il voulait la télé. Bon, et De Gaulle lui dit ça va pas, je veux dire, il est cocaïnomane, on ne sait pas quoi en faire, on va lui donner autre chose. Et il lui donne les affaires culturelles. Et ce qui est intéressant quand il crée le ministère des affaires culturelles, c'est qu'il n'y a pas de haut fonctionnaire au ministère des affaires culturelles. parce que c'est un nouveau ministère. Où est-ce qu'ils vont prendre les hauts fonctionnaires du ministère des Affaires culturelles? Dans le seul ministère qui est en train de fermer, c'est le ministère des colonies. Et c'est tout à fait intéressant de se dire que la décentralisation culturelle, elle a été animée par des hauts fonctionnaires qui venaient des colonies. Et Strasbourg, l'Alsace, a été l'Alsace, une partie de la Bretagne, une partie du Pays d'Oc, a été organisée de manière absolument centraliste, avec l'idée qu'il y a une culture nationale, républicaine, un grand théâtre, etc. Et il y a eu un vrai laminage culturel. Bon. Mais quand il commence dans les années 59-60, et qu'ils font ce projet un peu fou, bon, il n'y a pas la télé comme c'est répandu aujourd'hui, il n'y a pas des instruments de... Moi, je suis étonné que la part de gens qui vont au théâtre n'est pas baissée. Par rapport à la sursollicitation culturelle qui existe, c'est encore gigantesque. Les salles de théâtre, elles sont pleines à l'heure actuelle. Hein. Alors, après, on peut parler de la composition sociologique des salles. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de... Alors, effectivement, ça va peu au théâtre. Les ouvriers vont peu au théâtre. Mais ça, de toute façon, c'est pas la faute des artistes. Tant qu'on ne sera pas dans une société où sera appliquée radicalement une réduction massive du temps de travail, c'est-à-dire quand vous avez une journée de boulot, allez vous taper 4 heures ou 5 heures de spectacle le soir, c'est pas possible. Bon. Donc l'enjeu politique, à mon avis, c'est la réduction du temps de travail pour permettre à chacun, et, d'être un artiste, et deux, d'aller voir des œuvres. Mais si vous regardez la démocratisation culturelle, notamment chez les jeunes, c'est assez prodigieux le boulot qui s'y fait. Hein. Et après... Bah ouais, il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que vous allez voir des pièces et ça ne vous fait rien, et puis de temps en temps, ça change une vie. Et heureusement qu'on ne peut pas le programmer. Vous ne savez pas ce que vous produisez quand vous avez des classes de lycéens dans une salle. Il y en a peut-être un dont la vie va être bouleversée. Mais c'est statistiquement assez peanuts. Ouais. C'est rien. Mais moi, j'aime que ça reste rien, parce que si on avait trouvé le bouton de l'émancipation pour être sûr que quand on emmène des gamins par horde au théâtre, et par ailleurs, ça peut être terrible, hein, les soirées scolaires, ça va forcément faire des êtres qui vont avoir envie de continuer à aller. Heureusement qu'il y a cette part d'aléatoire, mais moi, je connais, enfin, j'ai des étudiants qui viennent de milieux extrêmement populaires, qui ont été une fois au théâtre pour la première fois de leur vie au lycée, et qui décident d'y consacrer leur vie. Et donc je trouve qu'à cet endroit-là, alors c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'endroit où la reproduction sociale rate. C'est pas grand-chose statistiquement et sociologiquement, mais ça me paraît absolument décisif, vraiment. Et je suis pour continuer à défendre cette possibilité, mais de la même manière, je dis une pièce, mais c'est de temps en temps un prof qui change votre vie. Bon. Et cet endroit-là, que cet endroit il soit possible, me paraît décisif. Après, sur la question de à quoi sert le théâtre, je n'en sais rien. Et peut-être même qu'il est mort, je sais pas à quoi il va servir. Après, moi, mon pari, c'est que le jour où toutes leurs machines vont exploser, on pourra toujours continuer à faire du théâtre avec deux pierres et deux bouts de bois, quoi. Contrairement aux autres arts, on n'a besoin de pas grand-chose, quoi. Et ça.
Oh, il y a Aurélie et Maxime.
Que ça. Voilà, c'est une première question. Et puis une deuxième question, vous en avez un petit peu parlé déjà. Est-ce que vous avez des éléments sociologiques des publics qui est-ce qui va voir ces pièces politiques? Parce qu'on reste quand même dans un public très bourgeois. Là, honnêtement, je ne sais pas si c'est une vraie question. Est-ce que. Qui est-ce qui va voir?
Première chose, quand vous dites c'est toujours une pièce de dévoilement, non, moi je ne crois pas. Alors je peux prendre des dramaturges reconnus aujourd'hui, mais le théâtre de Jean Genet n'est pas un théâtre du dévoilement. C'est un théâtre du revoilement permanent, c'est un théâtre baroque où on ne sait jamais si on est dans le leurre, dans le semblant, dans le simulacre, où tout est constamment. L'organisation spectaculaire n'est pas là pour vous montrer l'authentique du monde. Elle n'est pas dans ce. Elle, au contraire, elle est là pour vous donner le vertige devant le fait qu'il n'y a pas d'authentique. Quoi. Que le secret du monde, c'est qu'il n'y a pas de secret. Mais on pourrait prendre le théâtre de Copie, qui est un théâtre, hélas, très mal monté, mais qui fonctionne là aussi sur une surenchère ou une exacerbation du jeu d'image et du jeu des apparences. Donc je ne crois pas que tout soit forcément dévoilement. Sur le théâtre politique, là j'ai essayé de réfléchir à la question de l'émancipation, mais je ne crois pas que la visée du théâtre politique soit nécessairement l'émancipation. Ça peut être la mobilisation. Et c'est pas la même chose. On peut tout à fait décider que l'enjeu aujourd'hui, c'est de créer une mobilisation forte face aux fascistes, face à Macron, face à je sais pas quoi. C'est pas la même chose, mais l'un prépare l'autre. Encore une fois, j'essaie de travailler sur un projet très particulier à l'intérieur du théâtre politique, qui est celui qui vise à l'émancipation. Je dis pas que c'est le seul. Moi, c'est celui qui aujourd'hui m'intéresse, mais il m'intéresse. Alors, je l'ai pas dit. En situation, c'est-à-dire il m'intéresse dans nos années 2010-2020, on n'y est pas encore, mais dans les années du néolibéralisme tel qu'il arrive en France. Quoi, voilà. C'est cet endroit-là, j'aurais certainement pas dit ça il y a 15 ans ou il y a 20 ans, d'abord parce que j'avais pas repéré les travaux de Dardo Laval, pour le coup, étaient assez éclairants, ou de Harvey et compagnie sur ce qui nous arrive. Et peut-être que dans 15 ans, je redirais, la tâche principale aujourd'hui, c'est la mobilisation. Moi, je crois que la tâche principale aujourd'hui des groupes de gauche ou d'extrême gauche, c'est d'arrêter de faire de la pédagogie, c'est de faire de l'expérimentation. C'est-à-dire de considérer que tout est un laboratoire. D'arrêter de savoir ce qu'on sait, ce qui va se passer en Grèce, mais qu'on le prenne comme un laboratoire extraordinaire sur qu'est-ce que ça veut dire changer les rapports sociaux, qu'est-ce que ça veut dire prendre le pouvoir. Avec tout ce que ça veut dire comme problématique quand on est pris dans l'Union européenne, dans l'euro. Comment est-ce qu'on joue de ça? Là, je sais pas si vous avez lu, il y a un entretien extraordinaire d'un grand économiste marxiste, il s'appelle Lapavitsas, qui est paru sur Jacobin, en entretien avec Sébastien Budgen. C'est extraordinaire, les questions qu'ils ont à se poser aujourd'hui. Bon, moi, mais j'ai envie de vous dire, à mon sens, c'est contextuel ou conjoncturel. Peut-être que dans 5-10 ans, me semble-t-il, il faudra repasser. Mais aujourd'hui, je crois. Et c'est tout à fait contestable et tout à fait. Mais je crois que l'enjeu, c'est de retrouver le goût et le désir qu'on nous foute la paix. Voilà. Me semble-t-il, le théâtre, ça peut servir à ça. C'est de retrouver de renouer, je ne sais pas si de renouer, d'ailleurs, je ne sais pas si ça a déjà été noué, mais de faire l'expérience d'un temps où, encore une fois, on n'est pas anticipé, on n'est pas programmé, on n'est pas identifiable. Mais encore une fois, c'est purement conjoncturel et peut-être que dans 10 ans, je considérerais que la tâche du moment, c'est au contraire de former les gens, de leur donner des outils, etc. Mais comme je pense, pareil, c'est une analyse là qui est tout à fait contestable, mais comme il me semble qu'on est à la fin d'un cycle, alors en extrême gauche, on est toujours à la fin d'un cycle, toujours à la fin de quelque chose, on a toujours l'impression, on se prend toujours pour quelque chose, quoi. Mais je pense qu'on est à la fin d'un cycle. La question, c'est la fin de quel cycle? Est-ce que c'est le cycle ouvert par 95? Est-ce que c'est le cycle ouvert par 68? Est-ce que c'est le cycle ouvert par 17, par la résistance, le CNR? Est-ce que c'est le cycle ouvert par 17, auquel cas le cycle de l'hypothèse communiste, comme dirait Badiou? Ou est-ce que c'est le cycle, et moi je suis une hypothèse, ouvert par la création du mouvement ouvrier au 1848? Et si c'est ça, on a tout à réinventer. On a réinventé une internationale, on a réinventé des nouveaux types de collectifs. Et c'est, je sais pas, il y a un livre qui est sorti il y a quelques années à la Fabrique sur la première internationale qui est passionnant. Vous avez les débats entre les marxistes, les blanquistes. Quand vous allez dans les assemblées générales dans la fac, vous avez les totos sont des blanquistes. Hein, je veux dire, et c'est absolument passionnant de regarder comment on réélabore collectivement des choses. Bon. Donc je crois qu'on est à la fin. On est à la fin de quelque chose. C'est ça qui me guide dans mon travail. Donc, encore une fois, on peut tout à fait être en désaccord. Enfin, voilà, ma lecture du théâtre politique, elle est aimantée par une appréciation politique du moment dans lequel on est. Et après, sur la définition du théâtre politique, je vous accorde que je n'ai plus de définition. Je n'ai plus de définition parce que j'en ai une
sur le théâtre militant, j'en ai une encore, je ne sais plus laquelle, mais j'en avais une, parce qu'en thèse, ils vous demandent des définitions, donc je l'avais blindée. Bon, mais sauf que je vois bien que le théâtre militant, ça ne répond pas à tout le théâtre politique. Il y a toute une part qui lui échappe. Je crois qu'effectivement, comme vous dites, il y a plein de gens qui font du théâtre politique sans le savoir. C'est Jules Vallès qui parlait des messieurs Jourdain de l'insurrection. Il y a des gens qui produisent de l'insurrection sans le savoir. Bon. Et je crois qu'il y a du théâtre politique. Alors, pour le coup, c'est pas ce sur lequel je travaille, parce qu'à un moment donné, c'est des questions de corpus, mais je ne le délégitime absolument pas, et je considère effectivement que des œuvres peuvent être complètement émancipatrices sans l'avoir du tout cherché, et que, voilà. Après, moi, j'essaye de travailler vraiment sur une historicisation du théâtre politique, en regardant comment il évolue, comment il change ses paramètres, comment il change ses modalités, ses fonctionnements, ses paradigmes. Encore une fois, c'est comment il vient aujourd'hui heurter, dans ce qui me semble être le plus intéressant, mais c'est très subjectif pour le coup, heurter le paradigme de la prise de conscience, par exemple. Voilà, je suis d'accord que j'ai pas de définition du théâtre politique. Parce que par ailleurs, il faudrait distinguer ce qu'on appelle le théâtre politique de ce théâtre qui veut faire du théâtre et politique. Parce qu'on pourrait dire que tout théâtre a à voir à un moment donné avec la politique. La différence entre un cinéaste et un homme de théâtre, c'est que l'homme de théâtre, il va demander de l'argent à l'État. Le cinéaste à un banquier. Bon, quoi qu'il arrive, vous avez un rapport en Occident avec l'État. Bon, bah ça, c'est difficile de pas faire politique quand on a un rapport avec l'État, même quand on est. Bon. Et il y a un théâtre politique de droite, hein, il y a un théâtre politique bourgeois, théâtre de boulevard, qui est pour la reproduction des rapports sociaux tels qu'ils existent. Et qui, bon. Donc, c'est plus à titre pour travailler que je travaille. Mais je suis assez conscient qu'il va falloir que je bouge là-dessus parce que ça n'est pas suffisant de travailler sur les gens qui disent. Pas les gens qui disent je fais du théâtre politique parce que bon, mais les gens qui disent j'ai un projet politique. C'est un peu une solution de facilité, et effectivement, j'ai envie de travailler sur ailleurs, mais je ne sais pas comment constituer le corpus si je commence à prendre tout. Voilà, je ne sais pas comment je continue à forger cette catégorie de théâtre politique en tant qu'encore une fois, pas catégorie rigide, mais en tant que catégorie problématique. Ce qui m'intéresse, c'est quand politique et théâtre sont des mots embarrassants l'un pour l'autre. Voilà, c'est ça qui me... Et sur la question du public, qui va voir le spectacle ? Alors, je ne suis pas d'accord pour dire que c'est la bourgeoisie, ou alors c'est une conception très extensive de la bourgeoisie. C'est les classes moyennes, moins et plus. Effectivement, ce n'est pas des publics prolétaires qui vont voir... ce n'est pas complètement vrai. Bruno Messa, 15%, on était très clairement entre nous. C'est-à-dire universitaires, étudiants, comédiens. Il y a beaucoup d'intermittents dans la salle. Il y a un entre-soi, mais par ailleurs, je ne trouve pas du tout que ce soit un public déshonorant. Je ne me considère pas comme un public déshonorant pour les artistes. Et par ailleurs, ce n'est pas complètement vrai. Quand je vous parlais de Benoît Lambert tout à l'heure, moi, je l'ai vu 5 ou 6 fois, ce spectacle. Je l'ai un peu suivi en tournée. Et c'était en Franche-Comté, c'était un public, pour le coup, alors très jeune, effectivement, beaucoup sorties scolaires, etc., mais pour vraiment très, très, très mélangé socialement, quoi. Beaucoup plus mélangé que l'image qu'on a. Je crois qu'il y a quelque chose qui nous est raconté. Alors après, il y a des enquêtes statistiques, mais il y a des débats entre sociologues. Ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord sur les chiffres statistiques. On sait, par exemple, qu'Avignon, c'est majoritairement un public de profs. Mais parce qu'Avignon, ça coûte très, très cher. Mais quand... Là, on a sorti un numéro de théâtre public sur Nantes. Nantes, il y a plus de 35 salles de spectacle, avec une offre et une diversité. Nantes, c'est une belle ville, hein, mais c'est gigantesque, 35 salles de spectacle pour une ville comme ça. Donc, il y a une offre et une infrastructure assez forte, et le public est très mélangé. Donc, il faudrait regarder structure par structure qui y va. Et encore une fois, les théâtres subventionnés ont quand même des missions qu'ils essayent de remplir, plus ou moins bien, à mon avis de moins en moins bien, parce qu'on assiste à des segmentations de public. C'est-à-dire que le théâtre subventionné fonctionne beaucoup sur des communautés de public. Donc vous avez un spectacle de Pessoa qui va être programmé, on va appeler la communauté portugaise. Enfin, c'est pas beaucoup plus que ça. Hein, je dirais une espèce de... Il y a quelques années, ils se sont dit qu'il faudrait quand même qu'il y ait des Maghrébins qui viennent au théâtre. Donc ils ont fait des nuits du Ramadan. Il y a une espèce de réduction épouvantable. Et ils ont fait venir Félag. Félag a fait 6 ans de tournée grâce à cette volonté de diversification. Alors qu'il y avait d'autres choses à montrer. Mais parce que les relations publiques sont devenues des vrais VRP, avec une pression à la salle. Mais il faudrait regarder spectacle après spectacle, salle après salle. Et à mon avis, la chose, elle est beaucoup plus mitigée que l'image qu'on peut avoir du théâtre comme art bourgeois, notamment dans la jeunesse, parce qu'une partie de la jeunesse est obligée d'aller au théâtre avec les effets que ça peut produire. Vous savez, il y a plus, ça ferait plaisir à Jean-Marie Brome, chaque année, il y a plus de spectateurs de spectacles en France que de supporters dans les stades de foot. Après, le foot, il regarde à la télé. Hein. Mais en termes numériques, alors après, spectacle, ça va de Florence Foresti à... Bon. Mais il y a plus de spectateurs, c'est gigantesque. Et encore une fois, il y a un spectacle qui se crée toutes les deux heures. On a eu une explosion de l'offre, c'est plus peut-être ça le problème. Et en même temps, la richesse de ça, c'est que beaucoup de gens, beaucoup plus de gens... La démocratisation culturelle, elle n'a peut-être pas démocratisé les publics, mais elle a démocratisé l'accès à l'art que la gauche s'est empressée de détruire en tuant les MJC. En...
Maxime.
Oui, Maxime Servu, je suis venu à une conférence ici au CMT à Paris. Je n'ai pas vraiment de questions, je voudrais exprimer un trouble par rapport aux formes que prend la politisation du rapport au théâtre. Vous avez parlé des actions de la brigade anti-négrophobie et d'autres groupes contre la flexibilité au théâtre Gérard-Philippe à Saint-Denis. Bon, moi, j'habite juste à côté, donc j'ai eu une bonne vue sur l'événement. Puis, on pourrait rajouter à ce que vous avez expliqué de la réaction du théâtre, qu'il y avait aussi certains des cadres du théâtre qui étaient blancs, en l'occurrence, qui étaient sur le balcon et qui prenaient en photo aussi, reproduisant aussi un dispositif scopique.
Oui.
C'est assez classique. Mais j'étais aussi, alors, je sais voir la pièce de Garcia contre laquelle militait l'Institut Civitas, et puis j'étais dans la salle à la pièce de Castellucci lorsque les militants de Civitas ont interrompu le spectacle. Et en fait, je suis assez troublé par, je vois des réactions similaires face à ces deux formes de politisation, et ça me trouble. Alors évidemment, je n'étais pas en accord avec la lecture que proposait Civitas, mais il y a une sorte de... voilà, j'ai ressenti un malaise assez profond du refus qu'il pouvait y avoir de la part des publics, de la part de l'institution, de l'expression in situ d'une interprétation conflictuelle ou antagoniste de la pièce. Moi, je trouvais plutôt intéressant, alors la pièce était sur le concept de visage du Fils de Dieu, et les militants de Civitas qui étaient éparpillés dans la salle se levaient les uns après les autres en donnant leur interprétation de la pièce, alors de manière plus ou moins agressive, vulgaire, etc. Moi, je trouvais que c'était justement particulièrement intéressant. Et puis, ce qui s'est passé, c'est plutôt que les CRS sont entrés dans la salle, les gens ont applaudi les CRS. C'était un truc assez délirant.
Il fait pleurer.
Et moi, je vois voilà, une proximité, finalement, dans les réactions qu'il y a à ces deux manières de politiser le rapport au théâtre. Et puis, il y a quelque chose aussi qui me pose question, qui est le fait que dans les deux cas, beaucoup des militants disaient ne pas avoir vu la pièce. C'est-à-dire que les militants de Civitas, ils savaient qu'ils allaient contester la pièce avant l'avoir vue, et puis certains se sont levés au bout de 10 minutes, alors qu'il ne s'est encore rien passé. Et puis pour la brigade anti-négrophobie, c'est pareil, il y a plein de gens qui disaient qu'ils n'avaient pas vu la pièce, etc. Et bon, du côté des catholiques, il y avait tout un discours sur heureux celui qui croit sans avoir vu, etc.
Ça tombe bien.
C'était très intéressant. Mais du coup, je me demandais simplement qu'est-ce que c'est aussi ce théâtre qui déborde complètement. Qu'est-ce que c'est que ce théâtre dont on peut parler sans avoir vu, les formes qu'il prend. Voilà. Donc, je me demandais simplement si vous aviez aussi ce regard sur ces deux événements qui ont été quand même deux événements un peu marquants pour le théâtre
ouais.
En France.
Oui, tout à fait. Sur Exhibit B, on a sorti, nous, un texte dans Libé, et je vous assure qu'on a galéré pour trouver des signatures d'artistes. Mais vraiment, parce qu'on s'était dit, on ne fait pas signer Balibar, parce que dès qu'il y a une pétition ici, il ne faut pas signer les classiques. On va essayer d'en trouver des nouveaux, et on va essayer de faire signer des artistes. Ça a été la croix et la bannière, à part BAMS, à part Océane Rosemary, enfin, à part les quelques-unes et les quelques-uns qui avaient déjà dit « OK », et ça a été très, 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 très compliqué de faire signer là-dessus, parce que il y a une mythologie autour du fait que un spectacle est intouchable. Et ce qui est très étonnant, c'est que le spectacle est tellement intouchable qu'on en vient à défendre l'intervention des forces de police. Et ça, moi, qu'un spectacle puisse être joué, un spectacle antiraciste, enfin dit antiraciste, puisse être joué, protégé par des flics de militants dits antiracistes, qu'il y a un moment donné, un artiste se dise pas, je joue pas dans ces conditions.
Mais ça a été l'horreur, et on s'en est pris plein la tronche. Et pendant qu'on parlait, j'ai reçu ce matin un SMS de la critique de l'UMA, parce que je viens d'écrire un petit texte sur Exhibit, qui me dit « faut absolument qu'on discute, tu dis n'importe quoi ». Enfin bon, ouais. Donc ça continue, mais très bien. Moi, je trouve que les masques tombent et c'est une bonne chose. Après, ce qui était très intéressant, c'est effectivement la confusion dans le milieu théâtral. C'est-à-dire qu'on a dit la brigade anti-négrophobie, les indigènes qui sont derrière, etc. C'est la même chose que les fascistes de Civitas. On a une espèce de confusion totalement dépolitisante, où précisément, ce n'était pas la même chose qui se racontait. C'est-à-dire, Civitas, c'est des militants d'extrême droite, et par ailleurs, je suis d'accord sur l'idée que c'est assez intéressant. Enfin, moi, je trouve que des gens ont envie de discuter de spectacle, mais allons-y. Enfin, je veux dire, de quoi on a peur ? Enfin, au contraire, mais moi, je serais un artiste aujourd'hui au théâtre Gérard Philippe, mais je bénirais ce public qui ne vient jamais dans mon théâtre d'avoir encore un mot à dire sur les représentations. Enfin, je trouve que c'est fort. Et pareil pour les fascistes de Civitas. Mais il y a eu comme ça une confusion. On nous a expliqué que c'était, en gros, les militants d'extrême droite valaient les militants antiracistes, quoi qu'on pense de l'orientation des indigènes ou du BAN. Et on a en plus confondu, au moment de Castellucci, parce que alors là, la profession s'est mobilisée, ils étaient un peu emmerdés sur Exhibit, ils étaient plutôt au compte, mais ils n'ont rien dit, ils ont laissé faire courageusement le directeur du 104 et le directeur du TGP. Sur le Castellucci, là, ils étaient très remontés, parce que c'était un peu facile, il y avait des cathos, bon, c'était cathos intégristes, ça leur permettait de... Mais on a lu des textes où Castellucci était comparé à Jean Genet, et au paravent de Jean Genet. Et alors que Castellucci... Donc, les paravents de Jean Genet, c'est une pièce de 66, que Genet... Enfin, une pièce qui est montée en 66 en France, qui fait partie des événements de l'année 66. Il y a le limogeage de Langlois, non, et l'interdiction de la religieuse de Rivette, et puis il y a les paravents, et c'est un moment assez incroyable, puisque les parachutistes s'aperçoivent qu'on joue une pièce. Par ailleurs, elle est compliquée, la pièce. On sait bien où était Genet, mais elle n'est pas explicitement anticoloniale. Même anticolonialiste, on peut même lire la pièce comme étant une pierre lancée dans le jardin algérien, assez passionnant, puisqu'ils expliquent que... Enfin, il explique dans cette pièce que à vouloir évacuer toute part de négativité, et dit-il le petit tas d'ordures, une société se rationalise et se cartésianise. Et on sent bien que voilà, il y a une espèce de gloire aux traîtres dans cette pièce. C'est une pièce tout à fait étonnante. Moralité, Occident, groupe d'extrême droite, décide d'aller empêcher le spectacle, donc ils y vont, ils jettent des boules puantes, ils gueulent pendant le spectacle. Le deuxième soir, des militants gauchistes de Nanterre décident qu'on va quand même pas empêcher, donc c'est Cohn-Bendit, Krivine qui vont faire le service d'ordre du spectacle. Les flics se mettent au milieu, et donc vous avez des affrontements tous les soirs. Pour aller voir le spectacle, il faut traverser une rangée de fachos, une rangée de flics, une rangée de gauchistes. Et il y a Genet qui regarde et qui est mort de rire. Enfin, Genet, ça lui plaît, quoi. Et on n'est pas du tout dans le même cas que Castellucci, où Castellucci dit « Ils n'ont pas compris, ma pièce est un message d'amour pour le Christ ». Enfin, je veux dire, c'est des débats entre eux. Enfin, alors, je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien qu'il y ait des scissions à l'intérieur de l'Église. Mais ça, bon, voilà, c'est pas la même chose. Et donc, on a assisté comme ça à des espèces de confusions qui, pour moi, en tout cas, sont très symptomatiques de l'analphabétisme politique d'un certain nombre des dirigeants de structures théâtrales aujourd'hui. C'était inimaginable il y a 20 ans qu'on confonde des militants d'extrême droite et qu'on confonde des militants antiracistes, quels que soient les désaccords qu'on peut avoir avec eux. Garcia, c'est encore une troisième chose. Et vraiment, je trouve que, et je finis là, depuis effectivement 2-3 ans, le théâtre est débordé par son autre, par son extérieur, et que c'est une chance. Et qu'on devrait travailler là-dessus, de la même manière que, dans un tout autre genre d'idée, je vais essayer, mais je ne sais pas comment l'aborder, je voudrais bosser avec mes étudiants sur Dieudonné. Je voudrais qu'on travaille sur les pièces de Dieudonné, qu'on regarde sur quel type de rapport au spectateur il invente, parce que là aussi, ce sont des faits sociaux qu'on a, et on peut, je pense, les appréhender d'une manière esthétique, c'est-à-dire essayer de penser comment le racisme, comment l'antisémitisme, comment le fascisme se déploie sur une scène de théâtre aujourd'hui, et comment c'est un théâtre politique, mais un théâtre politique nazi, enfin, ou pro-nazi, quoi. Mais là, il y a quelque chose, effectivement, où le théâtre se revoit réinvesti de quelque chose de polémique, qui est tout à fait jubilatoire, et on n'a qu'une peur, c'est celle du conflit, de la polémique, et celle de la discussion. Il aurait dû ouvrir son théâtre là, et dire on fait une grande assemblée générale, on fait une semaine décoloniale. Enfin, ils n'ont pas ces réflexes là. Mais ça, c'est parce que, comme dans tous les milieux, on a la même chose à l'université, la dépolitisation, ça va très vite, et que voilà, et qu'on a peur du conflit, quoi.
Ouais, je remercie beaucoup.
Vous êtes qui, monsieur?
J'ai été longtemps au spectacle. Non, je voulais repartir. Ce que disait Fabien Thérin, que dans son introduction sur les spectacles qui se disent politiques sur les scènes nationales et dont on ressort en pleurant, en disant mais c'est une catastrophe, je l'espérais depuis longtemps, et j'ai vu apparaître en fait une espèce de phénomène de divertissement politique, en fait, il y a une quinzaine, vingtaine d'années. Et bon, on sort de là en disant bah, bon, alors le théâtre politique c'est mort. À la suite de la lecture de Rancière, on se dit bon, bah, c'est mort, donc c'est définitivement mort. Et à la lecture de votre livre, que j'ai trouvé réellement politique du spectateur, j'ai trouvé réellement enthousiasmant, en fait, on se dit mais du coup, il y a une certaine idée qui est morte, mais du coup, ça en ouvre plein d'autres. Et vous appelez le théâtre de capacité, et qu'il y a vraiment la place pour de l'invention, en fait. À partir du moment où on décide de le faire, bah, les modèles ne sont pas préétablis, et il y a des. Comment dire ? Il y a un travail à faire, il y a des portes à ouvrir. Et ça, je trouve ça absolument jubilatoire, et je trouve que vous mettez très bien le doigt dessus dans votre livre. Et la question, en fait, que je voulais vous poser, en fait, c'est... parce qu'en fait, on parle des œuvres et du public, mais on parle pas de l'interface entre les deux, qui est toute la politique culturelle, en fait. Et comment, en fait... Et on sait bien, c'est-à-dire que du projet, du début du projet, à sa réalisation dans la salle de spectacle... C'est-à-dire par tout le parcours labyrinthique pour réussir à monter une production, pour en fait au final se retrouver dans une programmation où vous êtes cloisonné, et ce qui fait que ce que vous vouliez dire au départ a été digéré en fait par toute l'institution culturelle, qui fait que effectivement on sait que les spectacles qui se disent politiques n'ont plus que le mot, finalement ont peut-être été vidés aussi par tout ça. Et je me dis, mais alors du coup, comment on fait? Comment on fait aujourd'hui? Est-ce qu'il faut avancer masqué là-dedans? Parce que vous citez Bruno Messa, mais je crois qu'il a beaucoup de mal à monter ce spectacle. Benoît Lambert, je crois qu'il est directeur à Dijon. Hein,
ouais, il vient de prendre un CDM. Ouais.
Voilà, il est dedans. Mais les gens dont vous parlez, généralement, ont beaucoup de mal. Je ne sais pas comment Marie-Josée Maïs, par exemple, a...
Ah, elle a du mal, là. Ça devient très dur.
J'imagine. Elle a laissé une petite fenêtre en arrivant. Elle a fait des propositions fortes, et puis du coup, voilà. Comment on fait, c'est-à-dire entre les deux, comment on traverse en fait.
Merci d'abord. Et je suis d'accord. Je ne sais pas comment on traverse. Je ne sais pas comment on traverse. Je sais juste que effectivement le système est très très intelligent et très roublard, et il réussit à métaboliser tout. C'est Annie Lebrun qui parle d'une censure par l'excès. Et je trouve ça très juste, hein, qu'aujourd'hui, on n'organise pas la censure sur la raréfaction des spectacles, on organise la censure en les noyant dans des festivals. Et tout festival aujourd'hui qui se tient, il a sa petite case d'avant-garde, il a sa petite case transgressive, il a sa petite case immigrée deuxième génération, il a sa petite case théâtre social, enfin tout est... Et effectivement, à partir du moment où vous êtes dans cette case, vraiment je ne sais pas comment on fait. La seule chose dont je suis à peu près sûr, c'est parce que j'enseigne aussi dans des écoles d'art, et c'est un débat que j'ai tout le temps, chaque année les jeunes au bout d'un moment disent on ne veut pas travailler dans l'institution, et moi je crois qu'il faut prendre l'institution. C'est-à-dire que je suis convaincu qu'il ne faut pas leur laisser. Voilà. Mais il ne faut pas leur laisser parce que, ce qu'on disait tout à l'heure, parce que c'est l'endroit où on touche un certain type de public. Avec toutes les difficultés, la malice dont on parlait, donc Marie-Josée Malice vient de prendre, c'est une badiouzienne hardcore. C'est du à côté de ça. Badiou est un petit badiouzien. Enfin, je veux dire, elle est. Oui, c'est Badiou de l'époque UJCML. Et là, elle est en train de lire Mao. Enfin, bon, elle est dans un vrai travail, un peu glaçant, hein, à certains moments. Et elle a monté Hölderlin, Le principe de l'idée, très platonicien, etc. Je viens de faire un texte sur elle parce que. Elle s'est fait massacrer à Avignon. Mais moi, j'ai rarement vu un spectacle comme ça. C'est-à-dire que c'est un spectacle d'une très grande fragilité. Scénique, la salle était allumée. Et il y avait donc les critiques, le soir de la première, se sont mis tous ensemble et ils ricanaient à haute voix, d'une élégance. Et moi, j'ai vu des gens partir en insultant les acteurs pendant qu'ils jouaient. Disant, mais t'as pas honte, ta gueule. Enfin bon, espèce de truc. Quoi. Donc elle a morflé, ça a été épouvantable, et là la reprise a été un peu dure, tout ça faut. Et en plus c'est un théâtre qui se passe vraiment vraiment des choses. Moi je pense que l'État, elle a été nommée sur un malentendu. Je pense qu'ils n'avaient pas vu ces spectacles, et que c'est quelqu'un d'excessivement brillant à l'oral. Elle arrivait avec un discours construit, ce qui change de celui qui a eu le TGP. Et donc voilà, elle a eu et ils sont aperçus après glaçant
glacés qu'ils ont filé le théâtre à une platonicienne badiouzienne. Enfin, je dirais, là, ils se disent comment on fait, il faut encore tenir 5 ans. Bon. Mais elles morflent. C'est-à-dire, là, ils ont beaucoup de difficultés à remplir. Et en même temps, alors, pour être. Je vais révéler. Je sais pas si elle, mais on s'est vu il y a quelques jours. Et je dis comment ça va. Elle me dit l'institution est morte. Je suis en train de faire le constat que l'institution est morte. Et donc, on va se revoir, parce que je veux qu'elle m'en dise plus, parce qu'elle est quand même dans l'institution. Donc, il y a un moment, c'est soit elle est morte et on la laisse mourir, soit... Et moi, je crois qu'il faut encore être à cet endroit-là, en essayant de le déplacer, en essayant de... En tout cas, je pense qu'il ne faut pas déserter cet endroit-là, parce que ce serait une absolue catastrophe de le laisser. Après, je sais le parcours que c'est aujourd'hui. Moi, j'ai été expert DRAC. J'ai démissionné au bout de 6 mois. À Strasbourg, c'est épouvantable. C'est-à-dire que les artistes vous donnent un dossier, il y a déjà tout le spectacle avant, parce que vous voulez évaluer comment. Donc, enfin, c'est la logique évaluatrice néolibérale dont parle Dardo Laval. Donc vous évaluez des spectacles. Donc vous n'avez, c'est une négation même de la possibilité de la création. Et l'année dernière, on a fait un débat avec ce qu'ils appellent l'émergence, donc les artistes émergents, ça aussi, conseil du ministère, l'émergence, jusqu'à quand, jusqu'où, bon. Et on s'apercevait quand même que l'immense problème qu'ont les artistes aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas de temps. Ils n'ont pas de temps pour travailler. C'est-à-dire, c'est aussi bête que ça. C'est-à-dire, un jeune metteur en scène ou un moins jeune, s'il a un plateau 15 jours dans l'année, les années où il n'a pas de création, c'est gigantesque. Donc la question aujourd'hui, c'est à mon avis de se battre pour des infrastructures. C'est ce qu'a fait Malice. Hein. Elle a mis une salle à disposition de 7 ou 8 jeunes compagnies qui n'ont pas de subventionnement et pas de conventionnement pour qu'ils aient un espace de travail. Donc je pense qu'à l'institution, enfin moi je ne suis pas pour inventer un extérieur, je pense que la solution n'est pas l'épicerie de Tarnac. Donc la question, c'est comment est-ce que, à l'intérieur de l'institution, on essaye de la défier, mais on sait très bien qu'aujourd'hui, les projets, ils crèvent du... Et entre le moment où vous avez un projet, j'ai des étudiants qui sortent d'école, là, et le moment où ils vont pouvoir... On commence là, en ce moment, c'est la programmation 16-17, voire 17-18, qui est en train d'être mise en place. Comment vous voulez avoir encore du désir dans 2 ans et demi pour un spectacle que vous avez envie de faire aujourd'hui? Enfin, qui a un désir qui dure 2 ans et demi? Enfin, à part si, il peut avoir des obsessions comme ça, mais il y a un moment, il faut abandonner, il faut passer à autre chose, ou alors il faut se dire qu'on le réalisera plus tard. Mais évidemment que le spectacle, vous arrivez au premier jour de répétition, il a été tellement mâchouillé dans votre tête. En plus, vous avez dû écrire 12 000 dossiers, vous expliquer ce que vous voulez faire. Comment c'est possible? Bon. Et à ces endroits-là, je pense que l'institution, elle doit être le lieu de la réponse, en considérant que, et c'est là où, à mon avis, on perd beaucoup à gauche et à extrême gauche, l'institution, c'est aussi des machineries contre l'État. L'université devrait être un lieu de bagarre anti-étatique. Et on pense aujourd'hui, on a confondu service public et État. Et et pour le coup, je pense que c'est très important que les directeurs d'institutions culturelles réapprennent que leur mission, c'est le service public, c'est pas d'être des agents de l'État. De la même manière que nous, profs de fac, nous devons être des adversaires de l'État, parce que notre tâche, c'est le service public, c'est-à-dire, bon, etc., etc. Mais de la même manière que la sécurité sociale, enfin, ce sont des institutions à l'origine anti-étatiques, qui ont été inventées par des grands bonshommes qui après ont mal tourné. Les grands bonshommes, c'est pas du sexisme intériorisé, c'était que des hommes dans les années 50. Et les directrices, ça commence depuis très très peu de temps, les politiques paritaires. Mais c'est des gens qui ont inventé contre l'État. Je veux dire, Planchon a inventé contre l'État, etc. Bon. Et revenir à cette idée-là que le service public, c'est des lieux anti-étatiques, donc il faut l'inventer comme une machinerie de guerre contre le mal que nous fait l'État, me semble-t-il. Et après, je dis ça en étant un pied dedans, un pied dehors, c'est très facile, c'est pas moi qui remplis les dossiers, et je sais l'usure que c'est aujourd'hui d'arriver à maintenir vif un désir en passant par toutes les cases et par aussi toutes les humiliations, parce que on sait ce que sont les gens à la DRAC qui eux-mêmes sont humiliés, on sait ces rapports-là qui sont des rapports de suggestion. Bon, voilà. Mais moi, je suis assez persuadé, je me trompe peut-être, parce que je vous dis, si Malice me confirme que c'est mort, mais je suis assez convaincu que c'est pas en désert, c'est en harcelant ces lieux que quelque chose est possible, quoi.
Une autre question, Julie.
Je suis Julie Pénis, je travaille ici, dans une conférence et donc je travaille avec un ami qui est à mes côtés sur d'abord du domaine Longuna, je pense que vous le connaissez.
Oh oui.
Et voilà, et je serais d'abord intéressée de savoir comment vous pensez son théâtre. Et on travaille aussi toutes les deux donc sur à la fois le festival du Mantina sur scène qu'il a mis en place à Brazzaville, puis un autre festival en Afrique d'Étienne Mounou, les Récréatraves. Voilà. Et une des questions que je me posais en vous écoutant sur l'émancipation du côté de l'artiste et la question de la communauté, enfin pas celle de la communauté, etc., mais c'est qu'en fait, ces deux artistes, dans leur festival, eux, ils recréent vraiment une politique culturelle pour prolonger ce qu'on est en train de se dire, c'est-à-dire dans des contextes dictatoriaux ou en tout cas d'oppression forte, sans revendiquer un théâtre engagé aux militants, mais en pratiquant vraiment le théâtre comme politique au sens de conflictuel, hein, avec l'État social. Et en fait, la communauté, elle revient parce que pour réussir leur pari de mener quand même une politique culturelle dans leur festival qu'ils réinventent totalement, hein, il faut bien qu'ils recréent une communauté d'artistes. Et donc, ça devient un nous singulier pluriel, parce qu'ils organisent ça, enfin, sans cette communauté d'artistes, l'artiste seul tombe, il est mort, il ne peut pas créer. Et donc ce théâtre de résistance, la pensée par exemple d'un festival qui peut-être ne regroupe que 10 personnes, ou parce qu'il y a de la musique, parce que de temps en temps il y a quelque chose, ou parce que au niveau des récréatrices, c'est la scénographie qui prend la rue, c'est-à-dire vraiment là, le théâtre se déplace dans des cours, et c'est par la scénographie que l'autre est convoqué à sortir du monde, mais au sens propre, hein, parce que ça se recrée autrement. Et enfin voilà, ma question c'est peut-être est-ce que dans d'autres contextes justement politiques, on ne peut pas évacuer trop vite cette dialectique faite entre singulier et collectif, et j'aurais bien aimé savoir comment vous le pensiez.
Pendant que vous parliez, je me demande comment il s'appelait le très beau spectacle qu'il avait fait à Avignon.
Chez Dard. Il a eu une réception monstrueuse.
Ah, ça a été épouvantable. Voilà, mais tout était passionnant parce que sur les, d'ailleurs sur les White Studies, sur le comment préalablement les articles ont parlé de lui, avant même le spectacle, c'était l'homme dans la brousse. Hein, c'était on le rencontre, ce grand noir beau. C'était épouvantable. Quoi. C'était Tintin au Congo, quoi. Et après, la réception du spectacle a été épouvantable aussi. Et c'était un spectacle tout à fait étonnant. J'ai un étudiant qui fait son mémoire sur Sheda, sur la question de la choralité et du chœur, justement, la différence entre chœur et choralité dans Sheda. Nyanguna, je ne connais que son travail qui est visible en France, notamment ce qu'il avait fait avec Catherine Boscovitz sur Jean Genet, qui était tout à fait étonnant, qui était un spectacle où il reprenait la dernière interview de Jean Genet. Et il disait le texte de Genet, mais il le poursuivait en intervenant lui, mais les deux disaient « je ». Il répondait comme Jean Genet, et il racontait « j'étais à la colonie pénitentiaire de Maitrey », sauf que « je » était en même moment la colonie pénitentiaire. À Brazzaville, il y avait une autre colonie. Et il y avait comme ça un entrechoquement de la culture blanche, de la culture noire, enfin de la culture, ça ne veut pas dire grand-chose, mais des histoires et des mémoires qui étaient... Et Genet devenait presque un privilégié, enfin c'était tout à fait troublant ce rapport-là, et c'était un spectacle très étonnant. Et Sheda, dans la catégorie théâtre lyrique qui ne dévoile pas, mais qui au contraire ne cesse pas de rajouter des images, des codes, des références, une espèce de luxuriance, était tout à fait... Donc je ne connais que son travail, les inepties volantes, etc. Je trouve que c'est un artiste absolument gigantesque. Je me suis peut-être mal fait comprendre, ou j'étais trop rapide. Je n'ignore pas la dialectique entre le singulier et le collectif, et le singulier et le pluriel. Je pense qu'elle est décisive. Encore une fois, le théâtre n'est pas une expérience... c'est une expérience individuelle, je crois, mais saisie dans un collectif, avec toute la capacité qu'on a à s'en dissocier, à s'y retrouver. Avec juste, enfin, un spectacle, c'est 2-3 heures de... Donc c'est une... Il y a un poète que j'aime beaucoup, Radovan Ivzik. Traditionnellement, dans les études théâtrales, on raconte que le théâtre à Athènes, c'est magnifique parce que c'est une mise en question de la cité, de l'homme et du cœur, etc. Et Ivzik raconte, donc c'était un auteur censuré par les fascistes, par les oustachis, puis après par les titistes. Ivzik, I-V-S-I-C, c'était un des principaux dramaturges surréalistes. C'était le compagnon d'Annie Lebrun, qui est mort il y a 4-5 ans. Et il dit que la première fois qu'il a vu une tragédie grecque, je crois que c'était un Sophocle, ce qui l'a bouleversé, c'était pas tant que c'était une mise en question de la communauté, qu'il y voyait comment un homme se détache du collectif. Et que pour lui, c'était l'expérience difficile, ardue, pénible, voire impossible, du détachement. Et tout ça, c'est pas pour évincer la question, mais je crois que ce qui m'intéresse, mais c'est peut-être, je tords peut-être le bâton très fortement dans l'autre sens, parce que le discours général sur le théâtre comme endroit du commun, du public, des retrouvailles, enfin l'espèce de villarisme, de la fusion de la salle, me paraît pas complètement juste, parce que d'abord je me méfie beaucoup des spectacles qui fusionnent. Sheda, ça fusionnait pas pour le coup. Et ce qui m'intéresse effectivement, pour reprendre votre terme, c'est cette dialectique qui est très fine. Où, c'est la formule de Rousseau, au théâtre, on croit s'assembler, c'est là où l'on s'isole. Et je crois qu'on fait l'expérience de l'isolement dans le groupe,
Mais on a besoin du groupe pour faire cette expérience de l'isolement. Et on a besoin que cet isolement soit ponctuel, intermittent, clignotant, pour véritablement exister, parce que sinon, ce n'est pas un isolement. Sinon, c'est une solitude, quoi. Voilà. Donc voilà, je ne veux pas du tout minorer ce lien dialectique-là. Je ne pense pas du tout que c'est pareil de regarder un film chez soi tout seul et d'être pris dans une salle à une convocation à une certaine heure de la journée, dans un certain lieu, dans un certain moment historique. C'était tout à fait frappant après Charlie Hebdo d'aller au théâtre. On sentait que le fait de faire public avait du sens, quoi. Donc je ne veux pas minorer ça. Mais je suis aussi pour qu'on réévalue la question de... Et par ailleurs, je pense qu'à l'extrême gauche et à la gauche, il faut reposer la question de l'individu. On a laissé ça au néolibéralisme. C'est un travail de Corcuff qui a essayé de faire ça. Bon, on peut avoir des désaccords, mais de réélaborer la question de l'émancipation à l'échelle individuelle. Enfin, le libre développement de tous, le libre développement de chacun est la condition du libre développement de tous, dit Marx. Et on oublie toujours cette formulation. Mais il ne sera pas possible d'inventer une société d'individus émancipés si nous n'avons pas été émancipés individuellement ou si nous ne nous sommes pas émancipés individuellement avant. Donc, c'est aussi pour remettre politiquement, pour se réapproprier cette question de l'individu à gauche, me semble-t-il, qu'il faut la travailler dans son rapport au collectif public.
Mais, tout à fait d'accord avec tout ce que vous dites, mais justement, ces individus, ces artistes émancipés, mais justement, ces artistes émancipés, la question que je vais vous poser, je le vois en Afrique, mais demandez-vous là comment vous l'analysez ici, ce collectif. Parce qu'au théâtre, aujourd'hui, collectif du côté des artistes, là. Vraiment, c'est comment vous pensez. Parce que dans les contextes que je vous rapporte, sans ce collectif, mais qui doit émerger autrement, réinventer, justement. Je ne sais pas, il doit être entre différentes Afriques, il doit aller se chercher ailleurs, il lance vers le sud, dans d'autres types de lieux, il s'invente vraiment. Est-ce que ici, dans ce mouvement du collectif d'artistes et collectif associé, comment vous l'analysez pour ce qui est de l'émancipation et de la résistance? Parce que c'est comme ça que c'est présenté.
Et je pense que c'est un leurre total. Que c'est un phénomène de mode. Là, on sort d'un colloque à Lyon sur la question des collectifs. Il n'y a que des collectifs partout. Sauf que les collectifs reproduisent exactement les mêmes rapports sociaux que quand ce n'est pas des collectifs. C'est-à-dire, il y a un metteur en scène, un chef qui va à la DRAC, qui dépose le dossier en son nom, qui propose le projet. D'ailleurs, c'est tout à fait intéressant, il faudrait réfléchir le lien, que je ne ferai pas systématique, mais entre ces collectifs et leur sexisme. Je n'ai jamais vu, en spectateur depuis plus de 25 ans, des spectacles aussi sexistes que cette année, venant de jeunes metteurs en scène à la mode. C'est-à-dire, le spectacle de Sylvain Creusevaux, qui a été un succès absolu à La Colline, Le Capital et son singe, c'est des pires choses que j'ai vues en termes de sexisme. Le Julien Gosselin, qui est nommé je ne sais pas combien de fois au Molière, qui a fait, il a fait du Welbeck, donc on ne pouvait pas s'attendre à ce soit très très... Mais c'est un spectacle absolument épouvantable, et c'est des jeunes gens qui ont moins de 30 ans, hein, donc c'est un peu glaçant. Et leur fonctionnement est le même fonctionnement que l'institution. Alors, après, la question, c'est pourquoi est-ce qu'ils emploient ce signifiant-là de collectif, effectivement. Qu'est-ce que ça recouvre? Mais ça ne recouvre absolument pas ce que les collectifs, à un moment donné, ont pu être, comme remise en cause des pratiques artistiques et des pratiques de production. On est, et d'ailleurs à tel point que Creusevaux vient de dissoudre son collectif, pour être un tout petit peu honnête, et prendre acte que c'est lui le chef, puisque quand même le jour de la première, après avoir travaillé 8 mois sur Le Capital de Marx, il a viré, je crois, 6 acteurs. Il a bien intégré la lutte des classes, mais pas forcément du bon côté. Je ne saurais pas vous répondre plus, mais par ailleurs, on va voir, parce que ça fait 3-4 ans les collectifs, il faut voir où ça va aller, si ça continue, mais ça participe aussi du discours encouragé par le ministère. Enfin, le ministère est très demandeur de ce type de choses sur la jeunesse, la vitalité, l'émergence. Et donc le collectif, ça a un petit côté bricolage. Et par ailleurs, ça renvoie aussi à la précarisation généralisée des moyens de production dans le spectacle vivant, qui est pour le coup profondément dramatique, quoi.
Peut-être une dernière question. Je vous en prie.
Merci à la Université de Moussakalem, Algérie, maître de conférence. Je voudrais juste vous parler d'une forme théâtrale du côté thérapeutique, en Afrique noire. Est-ce que cette forme, vous pensez que cette forme de théâtre offre au public et aux acteurs en même temps une émancipation totale, du moment que les deux doivent improviser, d'un côté c'est les acteurs qui doivent répondre aux questions du spectacle, ce qui ils sont tous là, et ils doivent intervenir en tant que spectateurs. Et en même temps, les acteurs aussi, de temps à autre, ils doivent aussi répondre aux questions des spectateurs. Est-ce que vous pensez que ce genre de spectacle offre plus de liberté, plus d'émancipation
Je ne veux sûrement pas devenir un évaluateur de ce qui émancipe et de ce qui n'émancipe pas, en venant donner des bonnes notes d'évaluation, enfin d'émancipation, j'en sais rien, je voudrais voir les spectacles, mais ce que vous dites me fait penser évidemment au psychodrame chez Moreno ou à des expériences de théâtre d'art-thérapie. Je ne sais pas si le projet de ce théâtre-là, c'est d'être émancipateur. Ça peut être autre chose. Ça peut être que les gens aillent mieux. Ça peut être... Et c'est très important. Mais je ne sais pas, par ailleurs, s'il faut chercher l'émancipation tout le temps. Hein. Je ne sais pas si ça doit être un projet. Enfin, je ne sais pas. Peut-être que de temps en temps, c'est très très bien d'être dépendant et pas être émancipé. Je ne sais pas.
Bien. C'est cette éloge de la dépendance
et de l'hétéronomie après l'autonomie.
Très bien, mec. Merci beaucoup.
Bah, merci.
On se retrouve la semaine prochaine avec
Isabelle
Garot, qui n'interviendra pas sur la question de l'art.
Il est vraiment bien son livre.
Mais bien sur la question de l'individu chez Marx.
Ah.
Et donc, voilà, merci, bon appétit.